cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 14 mars
96. Entrons dans cette philosophie du vivant. l'oxygène que j'absorbe, dont j'ai besoin. C'est le premier rail de la vie végétative. Et la vie végétative est commandée par l'assimilation. Et c'est important de comprendre cet acte vital et, j'allais dire, substantiellement vital. On devient l'aliment qu'on mange. On le devient non pas par rapport à notre âme. Notre âme ne devient pas carotte. Non. Notre âme spirituelle est-elle modifiée par notre alimentation ? L'exercice de notre âme peut être empêché par une assimilation qui se fait mal. Et quand l'assimilation se fait mal, il y a toujours des empoisonnements. On est alourdi par la nourriture qu'on prend. Et on peut alléger tellement que, alors à ce moment-là, on ne nourrit plus suffisamment, on n'apporte pas suffisamment d'aliments au pauvre corps qui en a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une assimilation fondamentale et substantielle. Comme le corps est conditionnement substantiel, le corps est un avoir substantiel. Il fait partie de mon être. Et c'est pour ça que l'assimilation végétative est une assimilation fondamentale au niveau. Est-ce qu'on dit que c'est une assimilation au niveau de l'être ? Non, au niveau de la vie. Y a-t-il une assimilation au niveau de l'être ? Posez-vous la question. Est-ce que seule la vie assimile ? Est-ce que c'est ça qui caractérise la vie ? D'assimiler. C'est sûr que c'est l'assimilation qui caractérise le vivant qui vit à travers un monde quantitatif et matériel. La matière est source d'extériorité par la quantité. La matière n'est pas source d'assimilation. Elle est source d'extériorité. Pourquoi ? Parce que la causalité propre de la matière est une causalité d'accaparement et non pas d'assimilation. La matière n'assimile pas. La quantité n'assimile pas, mais conditionne. La vie comme telle est au-delà du conditionnement. Il y a quelque chose dans la vie qui n'est pas le conditionnement. Si je veux expliquer l'assimilation, assimiler ne se fait pas au niveau du conditionnement. Que le conditionnement fasse que l'assimilation soit plus ou moins rapide, plus ou moins forte, c'est très vrai. Mais ce n'est pas au niveau du conditionnement. C'est très important, ça, vous voyez. De voir que l'assimilation est au niveau de la vie en tant qu'elle est substantielle. Et non pas au niveau de la vie dans son conditionnement. Tandis que la quantité accumule, la vie assimile. Il y a donc une force vitale dans le vivant de vie végétative qui est extrêmement impressionnante. De faire que quelque chose qui est extérieur devienne le vivant. Alors cela manifeste avec force et violence l'immanence du vivant. Parce que c'est assimilé, c'est en vue de l'immanence. L'être vivant, en assimilant, demeure le même. Numériquement parlant, son chiffre biologique n'est pas changé. S'il a un régime de carottes ou de pommes de terre, végétative, il y a la subjectivité transcendantale. C'est intéressant de voir ça. Que la vie végétative implique une subjectivité transcendantale, parce que votre assimilation provient de votre vitalité. Elle ne provient pas de l'aliment que vous prenez. Ah, ça conditionne. Et si votre vitalité est fragile, ce conditionnement joue énormément. Vous donnez un régime à quelqu'un. Bon, il ne faut pas réfléchir. Qu'est-ce que c'est que le régime? Au point de vue végétatif, je n'arrive pas à assimiler tel aliment. Égoïste au suprême plan, parce que la vie n'a plus de conscience, plus rien du tout. C'est un légume. Qu'est-ce qu'on veut dire là? On veut dire qu'il n'y a plus que la vie végétative. C'est triste de dire ça, parce que c'est toujours une vie humaine. Donc c'est pas un légume du tout. Mais parce qu'on veut exprimer que là, la vie végétative prend tout. Tu vois, extérieurement. Je n'en sais rien si elle prend tout. C'est très très mystérieux, autrement dire, une vie de catacombe. L'être humain commence dans les catacombes et termine dans les catacombes. Pas toujours. Mais la note dominante, alors, c'est justement cette assimilation qui a comme mode particulier dans l'assimilation au niveau de la vie végétative de la transcendance subjective de la vie. Impérativement. Et toute l'organisation qui se fait progressivement à partir de la nourriture, à partir de la respiration, à partir de l'eau qu'on boit, de la boisson, toute cette organisation se fait indépendamment de ma volonté. Ça s'impose à moi d'une manière extrêmement précise. Et le développement d'embryon est quelque chose à ce point de vue-là d'extraordinairement intéressant pour le philosophe. Parce que ça montre la détermination de la nature. Une fois qu'on découvre ce qu'est le développement d'embryon, on ne peut plus nier la nature. Parce que ce développement se fait rigoureusement et très déterminé. Ce qui montre qu'il y a à l'intérieur de cet être nouveau une force, une vis végétativa. C'est pour ça que certains diront il y a une âme végétative. Non, il y a une fonction végétative, mais une fonction végétative qui est très puissante, puisqu'elle est substantielle. C'est la fonction du corps vivant. Le corps vivant, il mange, il boit et il respire. C'est une parmi les plantes, parmi ceux qui ont la vie végétative, les plantes qui ont la vie végétative, c'est la plante la plus édifiante, la plus merveilleuse, la plus vorace. Tellement la vitalité de l'homme est forte. Et en même temps, elle connaît une très grande fragilité à cause de sa complexité. C'est une extraordinaire complexité. Et le vivant apparaît tout de suite dans sa vie végétative comme impliquant cette très grande complexité. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est cela qu'on retient. C'est vrai de la vie végétative, mais c'est pas vrai de la vie tout court. Alors il faut bien distinguer, et là le rôle du philosophe est de bien distinguer les caractères propres de la vie végétative, sachant qu'elle est fondamentale, et parce qu'elle est fondamentale, dès que le vivant est plus faible, la vie végétative reprend ses droits. Ça c'est sûr. Et impérativement, cette détermination très très grande, on peut modifier ces déterminations, on peut les modifier. Aujourd'hui, on essaie de les modifier jusqu'à un à ce moment-là, parfaitement organisé. C'est-à-dire, sa vie organique est plus ou moins parfaite, mais elle existe explicitement. Tandis qu'avant, au point de départ, tout est virtuel. Et c'est ce qui limite énormément les interventions. Et ce qui fait que on doit toujours se rappeler cela. Le chirurgien qui doit intervenir ou qui veut intervenir doit faire grande attention à cela. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait toujours et ne peut pas le savoir parfaitement. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui restent virtuelles à l'intérieur de la matière qu'on transforme, qu'on modifie. La vie végétative a donc ce caractère tout à fait particulier d'être fondamentale et première. Assimiler les aliments, quelque chose qui est extérieur à nous, de l'introduire en nous, selon le rythme propre de chacun d'entre nous. Fonction spéciale de tel ou tel organe. biologique ne parle pas de l'âme. Il veut être une science. Et donc saisir l'intelligibilité parfaite du corps humain, de ce corps vivant, avec des analogies avec le corps des animaux. Voir quel est le corps animal d'un adulte de l'animal, le corps le plus proche du corps humain. Vous savez bien que c'est pas le singe, c'est le porc. Et on a fait des études très poussées là-dessus, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Vous voyez, c'est là où il y aurait la comparaison, je vous dis, avec les parties des animaux dans Aristote. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Il faut une fois dans sa vie avoir lu ça. Parce que c'est intelligent. Ce serait très intéressant de faire un séminaire, vous voyez, avec un scientifique qui connaît parfaitement sa science biologique, et puis le philosophe qui prend Aristote, qui essaie de le comprendre, et voir comment Aristote analyse par des analogies avec les autres animaux. Sur les parties de l'homme, sur les parties organiques de l'homme. Il y a là quelque chose qui est important et intéressant à voir de près, puisqu'il s'agit de fait de parties du corps vivant. Et voir comment la tête, pour Aristote, la place prédominante. Et pourquoi l'homme marche debout. Et donc la libération des pattes de devant. Dans une perspective, vous voyez, d'évolution. Parce que ce serait la troisième perspective à voir. La perspective de l'évolutionniste, la perspective. Il y a là une matière critique, intéressante pour notre monde d'aujourd'hui. Je dirais très intéressante pour notre monde d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on devrait se servir de la science biologique pour corriger. Le traité des parties animaux d'Aristote, et voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ajouter. Vous voyez, c'est analogue aux éléments. Et le monde de la chimie. C'est analogue. Et c'est intéressant. Mais alors c'est bien plus complexe pour l'homme. Hein. La complexité du cerveau et la multiplication dans cette complexité de tous les organes humains. La vie végétative qui est d'abord assimilation, parce que cette vie se réalise dans la lutte. Alors, on a besoin de chauffer le moteur. On a besoin de le nourrir, on a besoin de lui apporter tous les éléments qui permettront de continuer sa route. Parce que si je ne mange plus, je sais que ça ne pourra pas durer très longtemps. Ça peut durer un certain temps, mais ça ne durera pas très longtemps. Cette vie végétative, d'abord l'assimilation et ensuite la croissance. Et voyez, dès le début, assimilation et croissance ont été liées. Et ceci, ça va jusqu'au développement parfait. Et là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement important. De comprendre les limites organiques de la croissance et la diversité de ces équilibres. donc doit pouvoir découvrir par lui-même l'utilité que peut apporter la nourriture, le régime, à sa vie d'assimilation, donc lutter contre les ennemis et à la croissance de sa vie, jusqu'à un certain degré. Après, il y a le phénomène du vieillissement. Croissance et vieillissement sont deux contraires. C'est plus intéressant d'étudier la croissance, c'est moins intéressant d'étudier le vieillissement. Et jusqu'où ça peut aller ? Comment l'homme, quand il est vieux, peut-il retourner dans le sein maternel ? Toujours la vieille opposition. Et c'est curieux qu'un vivant vieillisse. Parce que ça jurit, c'est une espèce, ça va contre la vie. La vie assimile et progresse. Et le vivant, dès le point de départ, a assimilé et a tout de suite grandi. Et les deux choses étaient très liées. Ensuite, quand il touche un certain sommet, il continue de se nourrir, d'assimiler. Et de moins en moins, il grandit. Il faut comprendre justement que l'assimilation est d'ordre qualitative, tandis que la croissance est d'ordre quantitatif. À l'intérieur de la qualité, le vivant de vie biologique, l'homme, implique toujours un aspect de quantité. Et cet aspect de quantité ne supprime pas l'harmonie quand cette quantité grandit. Elle grandit, elle aussi, selon un certain rythme. Et tous ne grandissent pas de la même façon et de la même manière. L'homme a son rythme de